France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire embarrassante. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des tournées sont organisées afin que les artistes français les plus célèbres rencontrent leurs homologues allemands, tous sympathisants nazis. Une initiative pilotée en sous-main par Joseph Goebbels lui-même, le ministre allemand de l'éducation et de la propagande, la manipulation des masses. L'une de ces tournées dure 12 jours et devient l'un des symboles de la France déshonorée. 12 jours pendant lesquels les plus grandes vedettes du cinéma français ont droit à des rencontres, des projections, des dîners, tout en étant logées dans des hôtels de luxe. Parmi ces vedettes, l'actrice Danielle Darrieux, qui 20 ans avant Bébé fait chavirer le cœur des Français avec ses initiales DD, mais qui n'hésite pas à tourner sous l'égide de la Continentale, une maison de production à capitaux allemands, lorsqu'elle n'écume pas les soirées au bras de Portofio Rubirosa, un playboy diplomate, pour qui elle se compromet au point de monter dans ce fameux train de la honte en route pour une tournée allemande. Mais était-il possible d'agir autrement? Dans quel état se trouvait le cinéma français en 1939? Comment comprendre que la production cinématographique française fut, durant la guerre, si florissante? En résumé, travailler sous l'occupation signifiait-il que l'on travaillait pour l'occupation? Notre invité aujourd'hui, Jérôme Bimbenet, historien du cinéma et auteur du livre « Voyage à Berlin, Danielle Darrieux sous l'occupation », livre qui vient de paraître aux éditions Talentier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mesdames, Messieurs, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons toute l'après-midi parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et on sent que, au fond, rien n'est changé, à part dans les rues. L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes.
Été 1940. Depuis le 18 juillet, Radio Paris est passé sous pavillon allemand, dans le but très clair de développer la propagande nazie et de contrôler la vie culturelle française. Dans cette archive que nous venons d'entendre, le reporter allemand, parfaitement bilingue, tente de rassurer les auditeurs. Certes, les Verts de Gris, les Fridolins, les Bosch, les Fritz ou les Schleu ont triomphalement défilé sur les Champs-Élysées. Certes, les bâtiments publics sont désormais couverts de gros gamets. Mais le message est clair. Dès lors que vous collaborez, tout se passera bien. Des mots qui s'adressent aussi aux artistes. Car Joseph Goebbels a laissé des directives précises. Ne montrer aux Français que des films légers qui font aimer le temps présent. D'après le journaliste Olivier Manoni, qui s'est attelé à traduire Mein Kampf pour son livre « Historiciser le mal », Goebbels est le premier à avoir compris que pour embrigader le peuple, une bonne guimauve vaut mieux qu'un long discours. Alors va pour les guimauves. Un an plus tard, la jeune Danielle Darrieux joue du trapèze et chante pour le film « La fausse maîtresse », un aimable marivaudage.
Toujours en 1942, Danielle Darrieux était la vedette du film « La fausse maîtresse » d'André Cayatte.
Les fleurs sont des mots d'amour, des mots plus tendres qu'un poème, qui font comprendre son discours au plus subtil comme au plus sourd, le doux secret d'un cœur trop lourd et ce bouquet des bonjours.
Le film est charmant, en effet, mais il est produit par la Continentale, une société de production de droit français à capitaux allemands. En fait, il n'y a guère de choix. Créés sous l'égide de Goebbels dès septembre 40, les capitaux de cette production sont immenses, puisque l'objectif est de créer une Hollywood nazie. Depuis Berlin, Goebbels confie son projet à Alfred Greven, l'un de ses proches qui s'est illustré en produisant Le Juif Sus, un long métrage d'un antisémitisme radical. En outre, il est parfaitement bilingue et a un carnet d'adresses bien rempli. Il va donc facilement faire main basse sur le cinéma français qui traverse une crise provoquée par des coûts de production de plus en plus élevés, ainsi qu'à certains producteurs véreux qui agissent sans convention collective et en dépit des accords de 36. D'autant que dès septembre 39, avec l'entrée de la France dans la guerre, tous les tournages sont à l'arrêt. Les artistes et les techniciens sont mobilisés, les spectateurs désertent les salles et les studios sont réquisitionnés par l'armée. C'est dans ces conditions que la machine continentale est lancée. Ne reste plus qu'à lui trouver des vedettes. Facile ? Pas tant que ça. Tous les scénaristes de confession juive se sont enfuis à Hollywood. Et voilà que certaines vedettes résistent, à l'instar du couple formé par Jean Gabin et Michel Morgan, ou les réalisateurs Jean Renoir et Julien Duvivier, partis eux aussi en Amérique. Mais Alfred Greven a de l'entre-gens. Il est très proche du réalisateur Henri de Coin. Il a même été le témoin de son mariage, en 1935, avec Daniel Darieux, la star de l'époque. Prédestinée pour une carrière de chanteuse, c'est un peu par hasard que la jeune Danielle débute sur les écrans en 1930. Elle a alors 13 ans, de grands yeux clairs et une voix irrésistible. Deux ans plus tard, elle tourne son premier film en Allemagne, Château de rêve, co-réalisé par le Hongrois von Bolvary et Henri-Georges Clouseau, un film produit par la tentaculaire UFA, une société allemande tombée dans l'escarcelle nazie. Mais la jeune actrice ne s'en inquiète pas, disons que... Elle est jeune et qu'elle incarne l'insouciance des années 30. Une forme de gaieté dont elle se souvient ici en 2006 au micro d'Eva Bettan pour France Inter.
Il y a un moment dans le film où vous dites « J'ai beaucoup joué de rôles légers ». Ça a été ça d'abord, vous ? Ça a d'abord été le champagne ?
Oui, j'ai beaucoup joué de rôles légers tout à fait au début. Et puis 3 ans après, j'ai quand même tourné mes Yearlings. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que... D'abord, on m'avait dit que je tournerais avec Charles Boyer, alors j'étais complètement chancelante de bonheur et de trac. Voilà, et c'était une histoire quand même très dramatique. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai tout de même tourné des rôles plus, un peu plus profonds, plus sensibles. Plus... C'est vrai qu'avant, on me donnait des rôles de rigolade, quoi, tout le temps, des rigolotes. Parce que dans la vie, j'étais comme ça, j'étais gay, je trouve que c'est la moindre des politesses d'être toujours gay dans la vie.
Tandis qu'Hitler accède au pouvoir, c'est un contrat pour 5 films que la jeune fille joyeuse signe avec l'UFA. Et c'est durant l'un de ces tournages qu'elle rencontre Henri de Coin, un ancien sportif de haut niveau reconverti dans le cinéma. Pour elle, il écrit le film Le Domino Vert, tourné de nouveau en Allemagne, à Battlesberg. C'est même là qu'il se marie en août 35. Elle a 18 ans, lui, 27 de plus. Comme la vie peut être belle parfois, d'autant que désormais Hollywood tend les bras au couple. Agissant comme un Pygmalion, De Coin encourage Darieux à passer outre-Atlantique. Et c'est ainsi qu'au printemps 1938, le New York Times écrit
« Mademoiselle Darieux est arrivée avec un époux du nom de Henri De Coin, un chien du nom de Flora, un violoncelle et 47 malles d'articles de mode de la rue de la Paix. »
Mais la jeune femme n'est pas fan de la mentalité américaine. Elle décide alors de casser son contrat avec Universal et de rentrer à Paris à la veille de la guerre. Installée à son bureau de la Continental, le producteur Alfred Greven se frotte les mains. Une star qui tourne le dos aux Américains et qui préfère tourner pour la Continental, par ici la bonne affaire, une belle prise de guerre, si l'on ose dire en la circonstance. C'est ainsi que dès 1941, Daniel Darieux se retrouve à l'affiche du film « Premier rendez-vous ». Le succès est immense. Les Français sont si heureux de retrouver le plaisir des salles. Lorsqu'elles ne sont pas réquisitionnées, bien sûr, pour les soldats allemands, à l'instar du Rex, spolié au producteur juif Jacques Haïk. Et lorsque les projections ne dégénèrent pas, une fois les lumières éteintes.
À Paris, dans la semaine du 15 au 21 octobre 1940, des débuts de manifestations ont eu lieu lors de la diffusion des actualités dans 2 nouvelles salles. L'Élysée Cinéma, 65 avenue des Champs-Élysées, et le Majestic Palace, 224 rue de Vanves. Ces cinémas ont été fermés.
À Paris, le 17 octobre 1940, à la suite des réactions qui se sont produites au cinéma Max Linder, 24 boulevard Poissonnière, lors de la projection du film allemand « Campagne de Pologne », trois jeunes filles, ex-membres du PSF ou sympathisantes de ce parti, ont été mises à la disposition des autorités d'occupation.
En effet, dès l'automne 1940, de nombreux actes de résistance surgissent de façon éparse dans la capitale. Ce qui n'empêche pas les artistes de continuer de tourner. Car avec la Continentale, force est de constater que la production devient florissante. En 1943, on compte 83 films français à l'affiche, contre 75 en 1938. Quant aux recettes théâtrales, elles triplent. En somme, ces lieux de divertissement épousent le désir des Allemands qui veulent que Paris soit une vitrine exemplaire de l'occupation. Quoi ? Des restrictions ? Des représailles ? Des otages ? Si peu. Voyez plutôt qu'on s'amuse ici. Pour preuve, tous ces reportages publiés dans la presse, toutes ces stars qui festoient chez Maxime ou au Bœuf sur le Toit. Ainsi, le 20 mai 1941, c'est tout le gratin du cinéma qui se retrouve au restaurant Le Doyen pour célébrer le passage à Paris de Sarah Lander, la nouvelle égérie de Goebbels. Et bien sûr, la pimpante Danielle Darrieux en fait partie. Enfin, pimpante. De moins en moins, en réalité. Parce qu'elle commence à s'ennuyer, Danielle, avec son Henri de Coin. Pourtant, leur vie est agréable. Ils se sont installés sur la Côte d'Azur, devenus le refuge d'un monde riche et déconnecté. Des années plus tard, elle témoignera de cette forme d'insouciance pour le livre d'Anne Reading, intellectuel et artiste sous l'occupation.
On s'en foutait. On allait chez le coiffeur tout le temps, on était dans l'insouciance totale. On était dans la zone libre. C'était une époque tellement folle. Comme on était très jeune et très jolie, des stars en vogue, on se foutait éperdument de tout ce qui se passait là-haut.
Là-haut, c'est la zone occupée, là où les Français souffrent, et où Danielle ne se rend que pour tourner au festoyer. Boire des cocktails pour oublier le naufrage de son mariage et plonger dans les beaux yeux de cet homme qu'elle a croisé à Cannes. Un playboy qui répond au nom de Porfirio Rubirosa. Originaire de Dominique républicaine où son père était diplomate, l'homme est un dandy qui assume son goût pour la nuit, les femmes et les trafics en tout genre. Parfait pour Danielle Darrieux qui craque pour lui. C'est au bar du Palm Beach de Cannes qu'elle le croise la première fois. Quelques semaines plus tard, elle le revoit à Paris lors d'une soirée donnée par le cinéaste Jean de Limur. Mais l'un de ses amis la met en garde. Attention Danielle, cet homme est dangereux. Le lendemain, elle reçoit une corbeille de fleurs accompagnée d'une carte parfumée signée Rubirosa. Alors, dangereux ce type-là ? Mais que sait-elle de lui ? Bon, qu'il fréquente les boîtes de jazz, qu'il se passionne pour les courses automobiles, qu'il est riche ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Rapidement, il lui raconte comment, à l'automne 1931, il a approché le général Trorio au Country Club de Saint-Domingue. Trorio, le dictateur soutenu en sous-main par les Américains. Il épouse sa fille, Flore de Oro, l'année suivante. Et en 1936, le voilà nommé premier secrétaire de la Légation de la République Dominicaine à Berlin. En tant que diplomate, il est invité au JO dans une tribune officielle proche de celle du Führer. Un événement qui l'impressionne. Dans la foulée, il participe au parti de chasse de Göring, rencontre Goebbels et assiste au rassemblement de Nuremberg, filmé par Leni Riefenstahl.
Quand la caméra de la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl a filmé le congrès du parti nazi à Nuremberg, l'usine à rêve s'est mise à fabriquer des cauchemars.
Und du, Kamerad, aus Bayern. Und du, vom Kaiserstuhl, aus Dresden.
Ein Volk, ein Führer.
Quel parcours romanesque et que de passe-droit. Oui, sauf que bientôt, Flore de Oro demande le divorce. Elle trouve Ruby violent et hors de contrôle. Trorio récupère donc sa fille et éloigne son futur ex-gendre en le nommant ambassadeur en France. Cap sur Paris, et non, Vichy, puisque c'est la guerre. Destination l'hôtel des ambassadeurs qui jouxte l'hôtel du parc où réside le maréchal Pétain. Mais Ruby s'ennuie. Alors il fait des allers-retours entre Vichy et Paris lorsqu'il ne passe pas ses vacances sur la Côte d'Azur à tomber les filles. Il joue aussi du trafic de lingots d'or. Puisque le métal précieux vaut 40% de plus dans la zone occupée, autant en profiter. D'autant que son statut de diplomate lui permet de passer la ligne de démarcation sans encombre. Décidément, cette guerre est une aubaine, dont il est un profiteur qui coche toutes les cases. D'ailleurs, il touche aussi au marché noir. C'est dans ce contexte qu'il rencontre celle qui manquait à son tableau de chasse, Danielle Darrieux, la plus belle des actrices. La romance s'enclenche, le cœur de Danielle chavire, rapidement. Elle signe son divorce avec Henri de Coin, la voilà libre. Oui, libre d'accepter la nouvelle proposition de Hollywood pour y tourner un film, hors de question. En dépit de la guerre qui sévit, elle préfère s'afficher avec Ruby, comme lors de la projection de son film « Premier rendez-vous au cinéma de Normandie », une salle qui projette aussi les œuvres de Leni Riefenstahl, la cinéaste du Reich. Symptomatique des histoires produites par la Continentale, le film est un triomphe. Accompagné de Ruby Rosa, Danielle savoure son succès avant de quitter le cinéma sous les vivas. Quelques jours plus tard, la revue Ciné Mondial écrit « Danielle Darrieux part vers un nouveau destin ». Diplomatique celui-là, mais problématique également. Comme l'avait compris avant elle Flore de Oro, Ruby est un amant incontrôlable qui ne prend pas au sérieux l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, ce qui oblige la République dominicaine à rejoindre les Alliés et à déclarer la guerre au Reich. Du côté des ambassades, la tension monte d'un cran. D'autant que l'Allemagne décide de garder Ruby en otage, afin de garantir la sécurité de leur ambassadeur à Ciudad Trujillo. Voilà donc Ruby en résidence surveillée à l'hôtel Claridge. Privé de passeport et menacé d'être envoyé en Allemagne s'il désobéit, l'homme fait appel à Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich à Paris. En souvenir de leur amitié, celui-ci offre une autorisation de 3 jours de liberté. 3 jours, pas un de plus. Mais Ruby dans la cure et continue de faire la fête, nuit après nuit. Et voilà qu'un soir, au bar de l'Aiglon, tout dérape. Danielle et lui s'amusent, le champagne coule à flot. Et une fois de plus, Ruby boit trop. La suite, c'est Jérôme Babonnet qui la raconte dans son livre Voyage à Berlin.
Les amants s'embrassent, les corps tressaillent, et Ruby a bien du mal à se contenir. Il retient l'attention des membres de la Gestapo à une table voisine. Ceux-ci s'amusent aussi bruyamment, des verres tombent, des bouteilles se vident, les violons de cigane entourent le couple. Et voilà que Ruby balance un verre de cristal en direction de la Gestapo qui réplique en balançant une bouteille sur sa table. Il se lève et soudain frappe un sous-officier. L'intervention du maître d'hôtel lui permet de sortir, mais on ne frappe pas impunément un membre de la Gestapo, tout diplomate que l'on soit.
Le lendemain, Ruby est arrêté à l'hôtel Claridge et envoyé à Bannerheim, une résidence surveillée pour diplomates. Danielle Darrieux est désespérée. Et le tout Paris bruit de cette arrestation. Et bien entendu, Alfred Greven ne tarde pas à la convoquer. En tant que producteur de ses films pour la Continentale, il est désappointé par cette histoire, mais il a une solution à lui proposer.
Je pars, tu pars, on part, allons autre part.
Par le soleil, les oiseaux, les abeilles.
Pour ce voyage, partons sans nos bagages. 3 collets, 2 mouchoirs, 1 peignoir rasoir. Soyons prudents, prenons la brosse à dents.
Mais le piano nous gênerait dans l'auto.
Chantons, rire, les boissons fleuries, l'herbe est douce,
nous mangeons sur le pouce quand on est de le week-end est joyeux. 3 jours d'amour,
3 jours c'est court,
mais ça suffit pour se connaître.
On fait un tour,
on fait sa cour,
et puis autre chose peut-être.
C'est divin, car on revint.
Cramponnez-vous bien fort,
plus vite encore.
Nous battons les records. Des bois, des champs, des prés, et 3 jours après.
Voici la mer, un Cabourg à Villers.
Grisé par l'air, nous mettons pied à terre. Voyez la bonne auberge, tous les gens se gobergent.
J'ai faim du pain.
trompette au second sur le balcon, venez voir l'horizon.
Trois jours d'amour,
trois jours c'est court,
mais ça suffit pour se connaître.
On fait un tour,
on fait sa cour,
et puis autre chose peut-être.
Aujourd'hui, Daniel Larrieux, Le train de la honte.
Affaires sensibles sur France Inter.
Noël 1941. En dépit de l'entrée en guerre des États-Unis, les Allemands paraissent encore tout puissants. En France, la collaboration prend notamment le visage de grandes tournées menées outre-Rhin où les artistes français sont invités à prononcer quelques mots dans la langue de Goethe, Dankeschön. Et certains écrivains, comme Drieu La Rochelle, ne se font pas prier.
Plusieurs écrivains français, mes chers auditeurs, viennent d'effectuer en Allemagne un séjour à Weimar, comme chaque année d'ailleurs. L'un d'eux, M. Drieu La Rochelle, a bien voulu venir jusqu'à notre micro nous confier ses impressions de voyage. Avec quelques amis, Jacques Chardonne, André Périve, Georges Blond et André Fregnaud, nous sommes allés à la deuxième rencontre des écrivains européens qui a eu lieu à Weimar du 5 au 11 octobre. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt n'exagérons pas, de feindre d'ignorer l'énormité formidable des événements qui se déploient autour d'eux.
C'est la deuxième fois que des auteurs comme Chardonne, Brasillach ou Drieu La Rochelle voyagent à Weimar. Comme nous l'explique Stéphanie Corsi dans son livre « La vie culturelle sous l'occupation ».
Sous couvert d'une visite des lieux historiques et des collections muséographiques germaniques de Berlin, Düsseldorf, Munich, Nuremberg, Dresde et Vienne, les artistes français sont instrumentalisés pour asseoir l'image de la supériorité artistique allemande. Le génie leur est sensiblement montré lors des visites des ateliers de Joseph Thorak ou Arnaud Brecker, comme devant les maquettes d'architecture peintes par Hitler.
Des écrivains, des peintres, et bientôt ce sont les comédiens qu'on sollicite. Oh, ce n'est pas grand-chose, une simple tournée qui assurera les Allemands de leur amitié. Et c'est là qu'Alfred Greven entre en piste. Pour lui, l'affaire Rubirosa est une aubaine. Car désormais, Danielle Larrieux est une femme qui supplie pour qu'on l'autorise à rendre visite à son Ruby. Elle ne peut plus vivre sans lui, et l'imaginer retenu à Badenheim lui brise le cœur. Mange-t-il seulement à sa faim? Quand pourra-t-il revenir? Greven a sa petite idée. Il suffirait d'organiser une projection du film Premier Rendez-vous à Berlin, à l'issue de laquelle la jeune femme rendrait visite à son homme. Mais tandis que l'actrice réfléchit, voilà que le projet prend d'ampleur. Daniel sera accompagné par toute une délégation de stars françaises pour une tournée de 12 jours à travers le pays. Avec, pourquoi pas, un dîner chez les Goebbels. Ils aiment tant les artistes. Une tournée de luxe, suivie par un reporter de la revue collaborationniste Ciné Mondial, eh ben voilà qui serait formidable. Mais la jeune femme tarde à donner son accord, car tout de même, dîner chez Goebbels. Alors elle demande conseil à son ex-mari Henri de Coin, qui l'incite à refuser ce voyage. Seulement voilà, Danielle est folle amoureuse de Rubirosa, on l'a dit. Alors elle accepte.
Sous le signe de l'art, des vedettes de l'écran s'apprêtent à partir pour l'Allemagne. À la gare de l'Est, on reconnaît Albert Bréjean, Danielle Darrieux, Suzy Delair, Junie Astor, Viviane Romance. Répondant à l'invitation du docteur Karl Fröhlich, président de la Corporation du cinéma allemand, ces artistes seront pendant 12 jours les hôtes de leurs camarades des studios de Vienne, de Munich et de Berlin.
35 secondes de reportage qui fixe pour toujours le sourire de Danielle Darrieux montant dans le train. Il fait froid ce matin-là, alors elle a revêtu un manteau de fourrure noire et une toque assortie. Et voilà qu'on lui offre des fleurs, alors elle sourit, ses compagnes aussi. Il faut faire bonne figure, même lorsqu'on a été contre. Car en vérité, les autorités allemandes avaient menacé Julie Astor de fermer les 3 salles de cinéma dont elle est propriétaire si elle refusait le voyage. Viviane Romance, elle, craignait les rumeurs qui couraient au sujet de ses origines polonaises et de sa possible judéité. Au final, seule Suzy Deler a accepté de bon cœur. Mercredi 18 mars 1942, le train Paris-Berlin s'éloigne dans la nuit. Au petit matin, les vedettes découvrent l'imposante verrière de la gare d'Anhal, sa majestueuse horloge, ses 2 allégories représentant le jour et la nuit. La gare, il est vrai, est impressionnante. 5 ans auparavant, Hitler y avait accueilli Mussolini. Mais ce jour-là, c'est une délégation de l'industrie allemande du film qui vient chercher les visiteurs, direction l'Hôtel Eden, l'un des plus luxueux du pays. L'ambiance y est cosy, gemütlich, comme on dit ici. Danielle Darrieux connaît bien cet hôtel. Elle y a résidé lors de précédents tournages, elle s'y sent bien. Puis une réception est donnée chez Fröhlich, le président de la Reich Filmkammer. Ils y retrouvent des producteurs de la UFA et d'autres huiles du Reich. Mais l'événement le plus important a lieu le lendemain, avec la projection du film Premier Rendez-vous, diffusé en allemand. Oui, un événement. Car c'est le premier long-métrage made in France projeté à Berlin depuis le début de la guerre. Alors le cinéma Marmorhaus est paré des couleurs du film et le reporter de la revue Ciné Mondial écrit.
Dans une salle très élégante où il ne reste pas une place de libre, l'actrice Danielle Darrieux, une orchidée dans la chevelure, fait une entrée pleine d'aisance. Elle a l'air d'une petite princesse et elle a tant de grâce qu'un murmure bienveillant l'accompagne jusqu'à sa place.
La salle fait un triomphe au film. Le lendemain, les vedettes sont conduites dans les studios de Babelsberg, la mythique cité de la UFA, où furent tournés les grands classiques du cinéma allemand et les plus grands films nazis. On leur montre la ville dorée, tournée en couleur grâce au procédé Agfacolor, supposé supplanter le Technicolor américain. En somme, tout se déroule pour le mieux. Jusqu'à ce qu'un incident surgisse, tout de même. Alors que tout ce beau monde assiste à un spectacle de musical organisé dans une usine, on découvre la présence de 2000 ouvriers français. Le STO n'existe pas encore. Il s'agit là de prisonniers de 1940. Et soudain, le malaise est palpable parmi les Français. Ce qui, rétrospectivement, poussera l'acteur André Legrand à dire « C'était horriblement gênant. Non mais, vous croyez que j'étais heureux ?» On sentait bien tout ce qu'il y avait d'affreux dans cette visite. Comment nous venions là et nous parlions avec des ouvriers qui travaillaient de force. Voilà, pas le choix, une fois de plus, et il faut bien jouer le jeu. Mais le pire reste à venir. Le soir même, voilà la délégation française invitée chez Goebbels, dans l'antre des diables. Nos artistes assistent alors à la projection d'un film allemand, puis passe à table en toute simplicité. Danielle Darrieux, qui ne perd pas le nord, tout à son obsession de revoir son amant, profite pour se confier à Magda Goebbels, la femme de Joseph. Elle lui dit qu'elle est ravie de participer à ce voyage, mais qu'elle aimerait beaucoup rendre visite à son fiancé retenu à Bad Nauheim. Séduite par le romantisme de la situation, Magda Goebbels demande à son mari d'intervenir pour que, dès le lendemain, Danielle puisse retrouver Ruby au lieu de se rendre à l'opéra de Vienne. Goebbels la regarde, lui sourit, puis accepte. À l'aube, une voiture mène l'actrice vers la Hesse, direction Bad Nauheim. Lorsqu'elle arrive, elle découvre qu'une suite luxueuse a été mise à disposition et que les 2 tiers des diplomates sont des Américains avec qui son amoureux s'initie au baseball lorsqu'il ne sympathise pas avec les journalistes. En somme, et dans son cas, la vie n'est pas si terrible. D'autant qu'il sera libéré 3 mois plus tard. C'est ainsi que dès le mois de juillet, Danielle Darrieux retrouve son homme à Vichy où elle s'empresse de convoler. Se marier dans cette ville, siège du gouvernement collaborationniste, « Oh, vous savez, cela ne signifiait rien pour moi, se défendra-t-elle plus tard. Après tout, Vichy est une mairie comme les autres. Vraiment ?» Nous sommes le 18 septembre 1942 et tout le corps diplomatique est réuni pour célébrer l'union de Danielle et de Ruby. Puis, la soirée a lieu dans les salons du Sporting Club, un haut lieu de la société vichichoise, avec au micro le speaker de Radio Vichy qui présente l'émission La Voix de l'Empire. Mais rapidement, le couple s'ennuie, la Vichy qui n'est pas franchement la ville lumière. Alors, l'hiver approchant, rien de tel qu'une échappée à Megève. Mais remarque-t-il les 2000 juifs qui y sont assignés à résidence sous la protection des Italiens ? La ville possède plusieurs refuges, dont le centre médico-social où sont confinés 200 enfants, bientôt exfiltrés en Suisse. Eh bien, évoque-t-il ensemble ces enfants ? Et ceux qui disparaissent mystérieusement ? 50 ans plus tard, des témoins précisent pour l'émission Le Pays d'ici sur France Culture.
Pendant la guerre, il y avait énormément de juifs à Megève. Nous avions, dans notre ferme, on avait deux appartements que nous louions. C'était des juifs. Ma mère avait un cousin qui était un prêtre.
Le Pertisseau,
comme on l'appelait, qui est venu trouver ma mère, qui était sa cousine, en lui disant « Olga, est-ce que tu prendrais pas un jeune juif pendant un an ?» Moyennant quand même, il y avait une pension quand même. Pendant un an, alors bon, mes parents ont dit oui, parce que bon, ils étaient comme ça. Alors quand mon père, il fallait qu'on cache tout le monde, enfin bon, c'était pas terrible, parce que, je sais pas si tu te souviens, les Allemands qu'on avait à Megève, ils étaient quand même pas très...
Non, mais
virulents, ils étaient pas très virulents.
J'en avais peur.
Oui, bien sûr, ah bon, on en avait peur.
Et là-haut, il y en avait souvent qui se promenaient avec leurs chiens.
Bien sûr.
Alors, à chaque fois, voilà. On disait donc à Jürgen... Il l'a caché, il avait sa petite trappe, il montait dans la grange et
voilà, c'est
il allait se cacher derrière un tas de faim ou je sais pas où. Hein.
Voilà, bien sûr.
Des soldats qui font peur, oui. Est-ce la raison pour laquelle le couple Dario Rubi décide de quitter Megève ? Car le 8 septembre 1943, les Allemands décident d'occuper la station en lieu et place des Italiens. Megève, qui n'était plus très sûre, devient dangereuse. Alors, cap vers la région parisienne, dans la gentilhommière que Daniel avait achetée grâce à son contrat américain, et c'était avant la guerre. Et peu à peu, la vie reprend ses droits. On joue aux cartes et on boit du cognac en attendant la libération qui laisse espérer une vie meilleure. Mais c'était sans compter sur les FTP, francs-tireurs et partisans, qui, dans la nuit du 23 septembre 1944, lancent une embuscade contre le couple, comme le raconte le journal communiste ce soir.
Monsieur Rubi Rossa, le mari de la vedette Daniel Darieux, a été victime d'un attentat. Alors que le diplomate de Saint-Domingue rentrait chez lui à Neuilly en auto, après une soirée passée avec les représentants de l'armée et de la presse américaine, une rafale de mitraillettes le blessa gravement à la région lombaire. Transporté à l'hôpital et opéré d'urgence, il est aujourd'hui hors de danger.
Étonnamment, la présence de Daniel Darieux dans la voiture n'est pas mentionnée. D'ailleurs, elle n'est pas touchée. Il n'empêche. Le couple qu'elle forme avec Rubi dérange. Lui, le diplomate sulfureux, elle, la star complaisante. Mais quel était au juste leur degré de compromission ? En réalité, Daniel Darieux était surveillé par la propagande Staffel depuis 1941, Rubi par le FBI depuis 1935 et tous deux par la résistance depuis 1944. Ainsi, le couple le plus glamour était aussi le plus surveillé. Et la série noire n'est pas terminée, car bientôt, le général de Gaulle qui a pris le pouvoir ne veut plus aucun diplomate vichysois. En conséquence, Rubi est nommé à l'ambassade de Rome. De son côté, Daniel doit affronter le comité de libération du cinéma français au sujet du fameux voyage à Berlin. Car c'est le monde du spectacle, désormais, qui doit rendre des comptes. Ainsi, pour chaque profession, une commission de 3 membres est formée avec l'aide de la préfecture de police de la Seine. Arletty en témoigne au micro de France Inter au sujet de son arrestation le 20 octobre 1944 à Paris.
En août 1944, vous avez écrit « Après avoir été la femme la plus invitée de Paris, je suis la femme la plus évitée. »
Ce qui était vrai. Ah oui.
Ce qui est assez étonnant parce que, effectivement, vous avez été très invitée parce que.
Oui, j'étais seule, parce qu'on me voyait, je pouvais avoir dans la vie des amis, un ami. J'amenais mon ami. On m'invitait seule, si vous voulez, très souvent. Alors j'étais très invitée comme une femme libre. Voilà.
Alors, à la libération, votre attitude n'avait pas plu à certains. Donc, vous avez eu des ennuis et puis vous avez même été incarcérée.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Quand j'ai été arrêtée au dépôt, il y avait tout Paris de la politique.
Vous étiez avec des relations.
Ah, du reste, quand j'y suis arrivé, Sacha était parti la veille. Alors, vous voyez, c'était pas si mal. Mais en tout, avec toutes ces choses-là, 3 mois, le tout. Ah, mais je suis resté longtemps, et après, j'ai été au dépôt, et après, oh, oui, ça a duré assez longtemps, ces balades-là, attention.
Eh oui, il faut faire attention. Car au final, sur les 1083 dossiers examinés, seuls 38 seront classés sans suite, dont celui de Daniel Darieux. Un coup de chance, dû à la présence dans le comité d'Henri de Coin, son ex-mari, qui la préserve. Dès lors, est-ce si étonnant si c'est le moment qu'elle choisit pour quitter Ruby, dont le dossier devient très encombrant, toxique même? Au bout du compte, leur histoire aura tenu un peu plus de 4 ans, le temps d'une guerre, de cette guerre. Des années plus tard, en octobre 2002, installé depuis longtemps dans le cœur des Français, Daniel Darieux accepte une interview pour le magazine Elle. À la journaliste Anne Diatkin, qui lui demande s'il lui arrive d'éprouver des regrets, elle répond « Des regrets, oui, 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 j'aurais aimé faire partie d'un cirque. » Affaire sensible, aujourd'hui Daniel Darieux et plus largement les artistes sous l'occupation. On en parle avec notre invité Jérôme Mabonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma et auteur du livre « Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation » qui vient de paraître aux éditions Talendier. Pendant le récit, je pensais à un film, « Marie Octobre », où Daniel Darieux incarne une ancienne chef d'un réseau de résistance, avec d'ailleurs l'un des castings les plus rutilants du cinéma français des années 50, Paul Meurice, Reggiani, Ventura, Francoeur, Bernard Blier, j'en passe. Est-ce que c'était un choix, disons, compensatoire ? Ce choix d'incarner une résistante, à votre avis?
Peut-être. Peut-être. De manière inconsciente.
Ouais.
Ouais, certainement. Plusieurs historiens l'ont dit, d'ailleurs.
Ah.
Ouais, 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 tout à fait. C'est une vraie question. Peut-être. Je ne pourrais pas vous répondre véritablement, mais ouais, pourquoi pas.
J'en profite pour encourager nos auditeurs qui n'auraient pas vu ce film à regarder. C'est un chef-d'œuvre.
Oui, absolument.
Absolument magnifique. Bien. Quelques semaines après l'apparition de votre livre, le journal Le Monde a réagi dans un article titré « La cécité de Daniel Darieux », dans lequel Samuel Blumenfeld écrit « Il pourrait s'agir d'un roman d'éducation. Il s'agit surtout de la trajectoire d'une immense comédienne et de la tragédie morale d'un pays ». C'est assez bien résumé quand même, parce qu'on voit dans tout ce récit que tous ces gens sont de toute façon, et quelque part, pour ne pas dire globalement, contraints de faire ce qu'ils font. Et nous devons avoir ce recul-là.
Oui, c'est assez bien résumé. Et justement, vous parlez de recul, il n'est pas question de prendre parti pour qui que ce soit, ni en bien ni en mal. Et il faut quand même dire que pour la plupart de ces acteurs et de ces actrices, ils ont été un petit peu pris dans le maelstrom de la guerre. J'irai pas jusqu'à parler de victimes, faut pas exagérer, mais disons que pour beaucoup d'entre eux, ils n'avaient pas véritablement le choix, et puis on a reproché à certains d'entre eux, justement, d'avoir travaillé pendant la guerre. Mais il fallait bien vivre, donc ils ont travaillé, bien sûr, ils ont travaillé. Sauf que, comme c'était des artistes, ils ont travaillé devant les yeux des spectateurs,
ouais.
Et qui n'attendaient que ça. Les gens avaient besoin de se changer les idées, et donc une revue comme Ciné Mondial, par exemple, qui était l'une des seules revues qu'on arrivait à lire, il y en avait quelques autres, mais c'était la plus importante, eh bien, tout collaborationniste qu'elle fût, était quand même très lue, et les gens attendaient de voir des images, des photos, des histoires, voilà, sur leurs artistes.
Alors, cette tolérance ne s'adresse pas, ne s'applique pas, évidemment, à des gens comme Drieu-La Rochelle ou Brasillat. Hein.
Naturellement.
C'est différent, c'est bon. Bien faire quand même le distinguo. Alors, concernant les conséquences du voyage de Daniel Darieux à Berlin, elle devra attendre les années 50 et les films de Max Ophüls, qui lui offrent 3 chefs-d'œuvre coup sur coup, La Ronde, Le Plaisir et Madame, puis on peut rajouter Marie-Octobre, pour revenir dans le cœur des Français. Mais surtout, il est stupéfiant de voir que c'est avec le propre fils de Max Ophüls, Marcel en l'occurrence, que la vérité sur ce voyage à Berlin éclate au grand jour, c'était en 1971. Cette vérité, on la trouve à la 110e minute du fameux documentaire « Le chagrin et la pitié ». Alors écoutons cet extrait du Masque et la plume, datant du 18 avril 1971, lorsque le critique de cinéma Jean-Louis Borry commente la sortie du film.
Vous pouvez en dire quelques mots tout de même pour nous, parce que ça s'est donné dans un petit cinéma, le studio Saint-Séverin.
Et il y a un mode d'emploi de ce film qui est extrêmement limpide, c'est-à-dire que « on », avec un grand « O » et des guillemets, on a jugé que ce film ne pouvait pas passer à la télévision française, parce que je crois que la formule a été donnée, du moins elle a été donnée par Marcel Ophüls, qu'il détruisait des mythes dont les Français ont encore besoin. Je crois que c'est la formule officielle. Oui, mais Et donc, par conséquent, on a, comme on ne peut pas là.
On a... C'est assez joli, je ne sais pas qui a trouvé ça, mais, c'est, formidable.
C'est une merveilleuse formule, parce qu'il était bien évident que depuis un certain nombre d'années, on vit en pleine mythologie, ça c'est évident.
On vit en pleine mythologie, dit le critique Jean-Louis Bory, et Daniel Darieux fait partie de cette mythologie. Qu'avez-vous ressenti vous-même en tant qu'admirateur? Je crois que vous aimez beaucoup Daniel Darieux, absolument, l'artiste. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la vue de ces images, de ce documentaire?
Une forme d'incompréhension sur la manière dont les images sont présentées. Mmh. C'est-à-dire que si on se souvient bien de ces images, elles apparaissent avant ou après, je ne sais plus, l'arrivée à Paris de Heydrich. Et il n'y a pas de commentaire, en fait. Mmh. Ces images, elles ne sont pas du tout contextualisées, elles apparaissent comme ça. Et la juxtaposition, si vous voulez, de l'arrivée de Heydrich et du départ à Berlin de ces acteurs, dans l'esprit des gens qui le regardent, voilà, immédiatement, on suppose que ces acteurs ont collaboré.
C'est
forcément
une prise de position.
C'est une prise de position très nette de Marcel Ophüls. Et moi, je me suis interrogé, comment se fait-il que le fils de Max ait pris cette position? Max Ophüls et Daniel Darieux, comme vous le savez, étaient extrêmement proche, ouais. Et il lui a effectivement donné les trois grands chefs-d'œuvre que vous avez cités tout à l'heure. Et je ne sais pas, en fait, c'est une incompréhension. À chaque fois que je vois ces images, je trouve ça effectivement assez curieux. Et puis, il n'y a pas du tout de mise en contexte, c'est ça. Ouais. Donc les images, elles sont connues, elles étaient déjà connues, vous les avez citées tout à l'heure. En 1942, on les a vues dans les salles de cinéma. Ces premières images, lorsqu'elles partent, lorsque les vedettes partent. Mais il y a eu d'autres images aussi. On voit les vedettes à Vienne, par exemple. Et alors, ce qui est quand même intéressant d'un point de vue propagande, c'est que vous avez un commentaire qui ne correspond pas aux images. Le commentaire, c'est Daniel Darieux et alors Albert Préjean et les autres. Or, à Vienne, il n'y a plus Daniel Darieux. Mmh. Elle est partie dès le lendemain de la visite chez Goebbels. Elle n'a pas fait le reste du voyage. Et donc, dans l'esprit des gens, il fallait instiller le fait que Darieux, c'était quand même la vedette principale. Le voyage a été conçu autour d'elle, ce que Viviane Romance d'ailleurs avait très bien compris, parce qu'elle ne supportait pas et elle ne voulait pas y aller, mais elle n'a pas eu le choix non plus. Et une fois que Darieux est parti, c'est Viviane Romance qui est devenue la vedette du voyage. Il faut rappeler quand même que Viviane Romance était une très très grande star aussi à l'époque. Pas que Darieux, hein. C'était un petit peu l'antithèse de Darieux. Et donc, moi je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu de contextualisation de ces images.
Quelle était la réaction de Daniel Darieux à la sortie du documentaire? On sait comment elle a réagi?
Bah, disons que ce que l'on sait, c'est qu'elle a assez mal pris le fait qu'on l'accuse très ouvertement de collaboration. Elle a réagi en disant « Ben non, j'ai évidemment jamais collaboré ». On l'avait un tout petit peu accusé en 45. Il y a eu quelques journalistes qui, suite à ce voyage, ont dit de Darieux. D'ailleurs, elle le cite elle-même à un moment. Il disait « Darieux a collaboré, mais non, pas du tout. J'étais juste une femme amoureuse ». En fait, elle n'a absolument pas collaboré, c'est très clair. Elle a été le jouet de l'histoire. Et puis surtout... comme le dit d'ailleurs très bien l'article du Monde, elle a été d'une insouciance et d'une désinvolture en traversant cette guerre amoureuse, totalement. Ouais. En fait, c'est une histoire d'amour. C'est à la base une histoire d'amour.
C'est pas un dossier accablant comme celui de Coco Chanel, par exemple.
Ah, ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais bien sûr que non. En plus, si on veut pousser un petit peu plus loin, pour Furio Rubirosa, c'était un allié. Donc, voilà, pour reprendre ce qu'on dit d'Arletty, elle n'a pas couché avec l'ennemi, du tout. C'était vraiment une histoire d'amour. Simplement, bon, elle a essayé d'aller voir son amoureux, donc ils sont mariés peu de temps après, et elle a accepté ce voyage qu'elle ne voulait pas faire au départ. Ni elle, ni les autres, d'ailleurs. À part Suzy Delair, pour qui ça posait pas de problème, il faut bien comprendre que ces acteurs ont été quand même contraints à faire voyage.
Et ça nous renvoie à une idée maintes fois répétée, mais très juste, selon laquelle, avant tout, ces gens ont eu la malchance, puisque la malchance, ont connu le drame d'avoir connu cette période.
Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que nous n'avons pas, en plus, nous, à porter de jugement sur ça.
Certainement pas.
Le nombre de fois où, en tant qu'historien, devant les archives, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jérôme Babonnet, je rappelle que vous êtes historien du cinéma et auteur du livre « Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation » qui vient de paraître aux éditions Talendier. Est-ce qu'on en sait un peu plus que ce qu'on a dit, nous, dans l'émission sur le dîner chez Goebbels?
Ben,
Parce que c'est quand même la scène, quand on imagine la scène, quand même, oui. C'est quelque chose.
C'est assez surprenant. En fait, on ne sait pas tellement plus que ce que vous avez dit et ce que je raconte, parce que vous imaginez bien que les vedettes se sont gardées de tout commentaire sur le sujet. La seule qui en ait parlé au retour, c'est Suzy Delaire.
Ouais.
Voilà, c'est la seule qui en a vraiment parlé.
Mais dans quel terme elle a parlé?
Oh, elle en a parlé dans... Alors, en fait, elle est arrivée donc, lors de la réception qui était faite par tout le gratin du cinéma français donc, au retour de ce voyage, en se plaignant qu'elle n'avait pas été présentée correctement à Goebbels, quoi. Que c'était un type charmant et qu'elle aurait bien voulu être mieux présentée. Donc voilà, c'était plutôt de cet aspect-là. Sinon, on n'a pas énormément... Alors, Goebbels a écrit dans son journal, il a écrit quand même quelque chose sur la soirée, mais sans entrer vraiment dans les détails. C'est, très rapidement, on est quand même tombé dans la propagande, puisqu'il écrit dans son journal que finalement, le cinéma français, c'est pas terrible et que les Français ne savent pas faire de propagande correctement et qu'on va leur envoyer quelqu'un et que lui, à la limite, il irait bien leur montrer comment il faut faire de la propagande. Voilà, donc c'est tout.
Que deviennent les camarades de voyage de Daniel Darrieux? Alors, Suzy Delaire, on l'a dit, Vianne Roman, Julie Astor, elles sont inquiétées par la commission de libération du cinéma?
Alors, tout le monde passe devant cette commission, bon, y compris Daniel Darrieux, et, donc, qui va avoir son dossier classé sans suite. Donc, il n'y aura rien pour elle. Suzy Delaire, oui, elle sera un petit peu inquiétée. Bon, elle était très proche d'Alfred Greven.
Oui,
il y a ça aussi qui est important. C'est lui qui l'a un petit peu lancé dans le cinéma. Albert Préjean va avoir pas mal de soucis. Alors, on va beaucoup reprocher à Albert Préjean, non pas le voyage, curieusement. Mmh. On va même comprendre, d'ailleurs, parce qu'il parlait allemand. On va comprendre qu'on lui a demandé de faire ce voyage. Lui, il sera plutôt inquiété par son omniprésence médiatique pendant la guerre. On le voit partout. Il tourne beaucoup et on le voit partout. Voilà. Donc, il est dans toutes les revues.
Et on s'est dit, voilà, il a le soutien des Allemands.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on suppose qu'il n'a pas pris suffisamment de recul. Et au moment de son arrestation, d'ailleurs, des militants communistes vont arriver devant chez lui en demandant de libérer Albert Préjean. Parce qu'en en fait, il est quand même soutenu par une partie des ouvriers de la profession, des techniciens qui l'apprécient beaucoup et qui estiment qu'il n'a pas collaboré. Et quand on regarde, effectivement, il n'a pas collaboré non plus. Ça veut dire quoi, collaborer? Vous voyez, ils n'ont pas collaboré ni les uns ni les autres. Il y en a qui ont été un petit peu sensibles aux idées.
Mais ils n'ont pas servi directement les Allemands, quoi.
Non, du tout. Bon,
même indirectement. Ouais.
Oui, je pense que les acteurs ont été insouciants, désinvoltes.
C'est ça.
Voilà.
C'est
Mais ça. Comme je dirais, et dans le cas de Darrieux, c'était le cas avant. Il faut voir qu'elle a débuté à 14 ans et qu'elle était dans un monde protégé dès le début. Et ce sont des gens qui étaient souvent très jeunes, qui vivaient dans un monde qui était le leur, je dirais presque aujourd'hui. Vous savez, les vedettes d'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'elles aient toujours les pieds bien sur terre.
Une grande conscience politique.
Oui, par exemple. Donc, on ne peut pas reprocher ça ni aux uns ni aux autres. Voilà, je pense qu'il y avait cet aveuglement dû à cet amour qu'elle avait réellement pour Porfirio, et puis le fait qu'effectivement Daniel Darrieux, comme d'autres, vivait quand même dans un monde protégé.
Oui.
Et ils ont pas non plus subi l'occupation de manière extrêmement violente, il faut bien le dire. Mmh. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils aient eu des problèmes de faim, hein, FAM.
Oui. Alors, on va en profiter pour parler de Daniel Darrieux, l'artiste, pour le coup.
Oui.
Donc, elle a une maîtrise de l'art dramatique absolument magnifique. Dans Marie-Octobre, je reviens, ce rôle où elle est d'une profondeur incroyable, on y croit à 100%, c'est absolument merveilleux. Avant la guerre, c'est une star déjà. Après la guerre, est-ce qu'il y a une différence entre les deux périodes? Comment elle est ressentie par les Français, mais en tant qu'artiste, hein?
Alors, il y a une petite différence. Oui, c'est vrai que la guerre, ça fait un changement. Elle a arrêté de tourner quand même, hein. Il faut rappeler ça. Elle avait un contrat avec Greven, qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout du contrat. Elle est partie, elle a arrêté de tourner, hein, jusqu'en 45. Oui, c'était. D'ailleurs, elle le dit dans l'extrait que vous avez passé. Elle faisait des films légers. Voilà. Au début, c'était plutôt une actrice rigolote, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, elle. Ça rappelle un petit peu Katharine Hepburn aux États-Unis à la même époque.
Oui, voilà.
Il y avait un lien là entre les deux, et d'ailleurs, elle s'appréciait beaucoup. Donc, c'est plutôt ça. Et les Français étaient pas très doué pour ce genre de comédie, le screwball comédie, comme on dit, et elle y arrivait, et Henri Decoing aussi. Donc elle avait ce côté aussi très plastique. Physiquement, elle était capable de faire plein de choses. Et puis, après la guerre, bon, il y a eu un ou deux films un petit peu mineurs, et après, c'est vrai qu'elle a totalement changé de registre, elle est devenue ce qu'on pourrait appeler une grande, très très grande comédienne.
Bien sûr. Donc on a osé le parallèle Bébé, Brigitte Bardot,
oui.
Et Dédé.
Bon. Oui.
Oui, d'accord.
Oui, bon, oui, oui, mais disons que bébé, ça a mieux marché que Dédé au niveau des initiales, si vous voulez.
Bien, merci infiniment pour ces éclairages que vous nous avez apportés en tant que grand spécialiste du cinéma. Et je rappelle votre livre, hein, parce qu'il vient de sortir, Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation, donc signé Jérôme Babenet. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Daniel Darieux et le train à honte. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berger.